Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Christophe Castaner. Merci d'être en duplex avec nous de votre ministère, je le précise. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de LCI, bonjour Adrien. Bonjour. Vous pouvez toujours réagir en direct, bien sûr, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury. Vos questions seront posées à l'invité à la fin de l'émission par Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Alors Christophe Castaner, vous étiez hier au compte-rendu du Conseil des ministres exceptionnel aux côtés d'Olivier Véran, votre collègue de la Santé, parce que vous serez le ministre le plus directement concerné par la mise en œuvre du déconfinement. Celui qui contrôlera les allées et venues des Français dans le cadre des nouvelles contraintes de déplacement fixées d'ici le 2 juin. Beaucoup d'aspects restent flous, nous comptons donc sur vous aujourd'hui pour nous éclairer. Et pour assurer le respect des règles de port du masque, notamment dans les transports, vous vous appuierez bien sûr sur les milliers de policiers sur le terrain qui sont inquiets, Christophe Castaner, pour leur santé. Ce sera d'ailleurs l'objet de la question en plus qui vous sera posée par David Lebars du syndicat des commissaires de police. Inquiets, les Français le sont aussi dans leur ensemble. Ils sont beaucoup plus sévères sur le gouvernement auquel vous appartenez que nos voisins anglais, par exemple, où pourtant le nombre de décès et la gestion de la crise sont très contestés. Comment expliquez-vous cette défiance? Quelles erreurs ont été commises? Nous en parlerons dans la seconde partie de l'émission. Nous parlerons aussi de ces attentats islamistes, ou en tous les cas dont les auteurs ont assumé leur idéologie islamiste. Pendant le confinement, il y en a eu deux. Alors craignez-vous une recrudescence après le déconfinement? Quel est l'état de la menace? Nous en parlerons également dans la seconde partie. Mais tout de suite, nous commençons donc sur les modalités pratiques de ce déconfinement avec une première question d'Adrien Gindre.
À commencer par la date, Christophe Castaner, on a compris que cette date du 11 mai pouvait être remise en cause. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui le dit encore ce matin dans la presse. J'ai deux questions très simples à vous poser. Aujourd'hui, avec les chiffres dont vous disposez, quel est le scénario le plus probable? Est-ce que le plus probable, c'est que l'on puisse déconfiner le 11 mai ou au contraire qu'il faille reporter cette date? Et s'il fallait, localement, deuxième question, le reporter, peut-on imaginer par exemple qu'il y ait des régions où l'on déconfine à partir du 11 mai et d'autres comme l'Île-de-France où l'on reporte de quelques jours ou de quelques semaines en fonction de la situation?
Notre objectif est clair, net, précis. C'est le déconfinement pour l'ensemble du territoire métropolitain national dès le 11 mai. C'est un objectif dès le lendemain de l'intervention du président de la République. Je rappelais, et le président de la République l'a fait aussi, que c'était un objectif à conquérir. En disant cela, on dit quoi? Et qu'a dit Olivier Véran dans la presse ce matin? Il a rappelé les Français à garder une exigence du respect du confinement. Parce que tout recul dans la semaine qui vient sur le respect des règles du confinement, ce serait une progression du virus. Et donc, ça menacerait le 11 mai. Mais pour répondre concrètement à votre question, clairement à votre question, c'est notre objectif et nous allons l'atteindre, j'en suis convaincu. Parce que les Français ont fait des efforts significatifs depuis le début du confinement et je n'imagine pas une seconde qui lèvent leur engagement et que du coup, ils fassent courir un risque collectif à chacun.
C'est clair. Guillaume Roquette.
Oui, justement, nous allons entrer dans la dernière semaine de confinement. Est-ce que vous observez ou est-ce que vous craignez un respect moindre des consignes et est-ce que vous allez accentuer les contrôles de respect du confinement cette semaine?
Benjamin Sportouche l'a rappelé, nous avons été en charge de la police du confinement. Mais nous n'avons réussi cela que parce que les Français s'y sont engagés résolument, activement à respecter le confinement. Mais pour répondre à votre question, ce que l'on observe ces derniers jours, peut-être pas ces dernières semaines, c'est qu'effectivement, il y a plus de monde dans la rue. Mais quand nous faisons les contrôles, ce que nous constatons, c'est que ce sont des gens qui sont en situation régulière, qui ont bien rempli leur attestation et qui ont utilisé une des dérogations qui leur permet d'être dans la rue. Pour faire simple, ce que je vois, c'est que les Français ont été plus loin encore dans l'application des règles du confinement. Et au bout de plusieurs semaines, Il y a des tensions, il y a des difficultés, et donc ils vont utiliser, plus qu'ils ne le faisaient avant, l'heure autorisée de sortie à 1 km du domicile.
Donc le nombre de contraventions a augmenté, Christophe Castaner ?
Je ne peux pas être candide. Non, en fait, on est sur le même niveau de contrôle et on a moins de monde qui, aujourd'hui, se déplace sans attestation et en dehors des clous. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu 19 millions de contrôles depuis le début du confinement, 1 million de procès-verbaux et les deux tiers de ces procès-verbaux sont pour des gens qui ne remplissaient pas l'attestation. Et si vous ramenez cela à la totalité de la population française et à la période concernée, vous apercevez que finalement, c'est assez peu.
Mais est-ce qu'il va y avoir des contrôles supplémentaires dans cette dernière semaine ? Beaucoup de Français constatent qu'il y a plus de policiers là sur les routes en ce moment et dans leur ville.
Il y a des contrôles de flux, mais nous le faisons, pour être honnête avec vous, tous les week-ends pour éviter qu'il y ait des mouvements vers la province et qu'il y ait une diffusion du virus. Et nous maintiendrons un très haut niveau de contrôle avec une particularité. Peut-être le week-end prochain, ce sera le retour d'un certain nombre de personnes qui ont choisi dès le début de passer le confinement dans leur résidence secondaire ou ailleurs dans leur famille. Ça n'était pas interdit avant le début du confinement. Et donc il est logique aussi que ces Français puissent rentrer dans leur domicile principal pour préparer une reprise professionnelle ou pour préparer la scolarisation des enfants.
Ça veut dire que, par exemple, des Parisiens qui seraient partis à plus de 100 km de chez eux, ils pourront revenir tranquillement le week-end prochain à Paris ou dans banlieue parisienne ?
Ben oui, pour une raison simple, c'est que quand ils sont partis, ils avaient le droit de partir, il n'y avait pas la règle des 100 km que vous posez dans votre question, et donc évidemment, on ne va pas dire aux gens, ben stop, ne bougez plus. Ils ont la possibilité de rentrer à leur domicile principal, et je le dis, pour reprendre une activité professionnelle ou pour scolariser les enfants. C'est pour l'essentiel des départs que nous avons pu constater, des gens qui, avant le début du confinement, ont fait le choix du départ, et ça n'était pas interdit.
Mais il faudra le justifier, Christophe Castaner, où chacun pourra se déplacer librement à partir du 11 mai pour rentrer chez soi, ou est-ce qu'il y aura des contrôles pour vérifier qu'on en est bien en chemin pour son domicile, par exemple? Comment ça va se passer?
Alors, il y a deux choses. Pour poursuivre la question sur les retours.
Sur les retours.
Vous avez raison, Adrien Jette, de me poser la question. Il faudra le justifier. Et donc, sur les retours d'ici le 11 mai, il faudra que chacun ait rempli une attestation de retour à son domicile, un motif familial impérieux. Et donc, il y aura des contrôles aussi sur les retours pour constater cela. Ensuite, après le 11 mai, pour l'essentiel, il n'y aura plus d'attestation. Le process est inversé. Nous faisons le choix de la liberté de déplacement, mais nous l'encadrons. Et nous faisons en sorte que nous limitions les grands déplacements qui peuvent faire courir un risque de propagation du virus. Les 100 km répondent à cette demande-là. Nous ne souhaitons pas interdire aux Français de se déplacer, mais nous souhaitons empêcher le virus de se déplacer. Or, le virus, il se déplace simplement dans une voiture, dans un train, mais il passe par un Français qui aurait enfreint la règle et qui, venant d'une zone de contamination, ne se rend pas compte qu'il est contaminé et se rend en province.
Une question sur les retours, Christophe Castaner.
Voir ses grands-parents et leur fera courir un risque.
Pour être parfaitement clair,
je vous en prie.
Est-ce qu'on peut dès à présent regagner son domicile ? Est-ce qu'il faut attendre le week-end prochain ? Est-ce qu'il faut attendre le 11 mai ? À quel moment ces mouvements de retour dans la résidence principale peuvent se faire ?
Écoutez, dès lors qu'ils sont encadrés par l'attestation du retour au domicile professionnel, et notamment si quelqu'un devait reprendre son activité, son domicile personnel et pas professionnel, si demain quelqu'un devait reprendre son activité professionnelle, il n'est pas illégitime qu'il rentre à son domicile principal.
Donc ça peut se faire le week-end prochain.
Donc nous n'interdisons pas aux gens de rentrer à leur domicile principal, bien sûr.
Et ça peut se faire cette semaine également, c'est important. Juste une question quand même sur les 100 km, Christophe Castaner. Pourquoi cette distance, elle semble arbitraire. Comment l'avez-vous établie ? S'agit-il aussi de 100 km à vol d'oiseau ou en considérant un itinéraire routier ?
Nous préciserons tout cela et nous encadrerons tout cela dans la semaine. Vous savez que le Premier ministre demain sera devant le Sénat pour poursuivre la présentation du plan de déconfinement et donc nous préciserons évidemment cela dans ce cadre, y compris en écoutant à la fois les sénateurs demain, mais comme nous l'avons fait avec les députés la semaine dernière, mais aussi les responsables des collectivités locales avec nous travaillons.
Mais pourquoi 100 km ?
100 km, voilà. Oui, ça peut être considéré comme arbitraire. Mais comme 70 ou 80, mais tout simplement parce que nous aurions pu travailler sur les frontières administratives. Mais les frontières administratives se fichent un peu du virus et n'ont pas beaucoup de sens en réalité. Le bon schéma aurait été de travailler sur ce qu'on appelle les zones d'emploi. Et là déjà je vous ai perdu parce que si vous savez, beaucoup de Français ne connaissent pas la zone d'emploi qui est calculée par le transport pendulaire du domicile au travail. C'est là où on a l'essentiel des flux. Et pourtant, personne ne connaît cette limite-là. Donc, on a pris une limite, 100 km, qui permet aux gens de pouvoir se déplacer, mais en même temps, surtout de faire attention à, au fond, si on veut combattre le virus, il ne faut pas se déplacer. Donc, il n'y aura pas d'interdiction infra 100 km, mais je vous donne mon avis, je déconseille aussi ces déplacements-là. La liberté sera celle de se déplacer, mais la responsabilité sera celle de lutter contre le virus. Et tout déplacement inutile favorise le déplacement du virus.
Adrien Gendre.
Christophe Castaner, on a bien compris que vous ne pouviez pas donner tous les détails techniques maintenant, mais il y a quand même beaucoup de questions de nos auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs. Je voudrais vous interroger sur la logique du plan qui a été présenté. Si on a bien compris, on pourra par exemple se déplacer d'un département rouge un département vert du moment qu'on reste sous cette barre des 100 km. Mais dans une région où tous les départements seraient verts, on pense par exemple au sud-ouest, on n'aura pas la possibilité d'aller plus loin. Vous venez de dire à l'instant que l'idée, c'est d'empêcher la circulation du virus. Est-ce qu'on ne court pas moins de risques en faisant 101 km entre deux départements verts qu'en allant d'un département rouge à un département vert en seulement quelques kilomètres?
À moins que je n'ai pas compris tout à fait votre question, il n'y aura pas d'interdiction de franchir une frontière régionale qui n'est
non,
pas
mais
connue par
d'autres. Alors je vais vous la reposer en essayant d'être plus simple, c'est Christophe Castaner. Si on a bien compris, la règle, elle est pour de 100 km partout. Or, vous avez des régions où même au-delà de 100 km, on reste en zone verte et où le virus circule très peu. Je vous prenais l'exemple du sud-ouest ou de l'ouest, par exemple. Il y a très peu de circulation du virus. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une règle plus souple dans les régions où le virus est très peu présent? Puisque vous-même, vous avez considéré qu'on pouvait faire 100 km dans des zones où pourtant le virus était présent, je pense par exemple au nord-est.
Non mais prenez le nord-est ou une région qui m'est chère, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où tous les départements sont en vert aujourd'hui. Si vous pensez qu'on peut du coup libérer totalement la circulation de tout le monde et ne pas respecter les règles dans cette région au motif que ce serait une région verte, je peux vous dire, dans deux semaines, elle sera rouge. C'est ça la réalité. Et donc de toute façon, qu'on soit dans un département vert où les indicateurs permettent aujourd'hui de constater qu'on est plutôt en deçà de la pression avec les indicateurs qui permettent de déterminer cette carte, ou que l'on soit à côté d'un département rouge, dans tous les cas, il faut limiter au maximum les mobilités pour éviter que le virus se déplace. Et ensuite, on a pris comme référence 100 km, comme pour les départements vert ou rouge, on a pris la référence des départements parce qu'elle est connue par nos concitoyens. Mais vous savez, je suis l'élu des Alpes de Haute-Provence. Dans le nord de ma circonscription, j'ai la vallée de Lubaye. L'essentiel du bassin de vie de la vallée de Lubaye est tourné vers les Hautes-Alpes et vers Gap. Et pourtant, la limite départementale n'est pas connue. Donc il faut aussi raisonner avec des indicateurs que connaissent nos concitoyens. Le département est un indicateur qu'ils connaissent et donc nous travaillons sur cela. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est scientifique? La réponse est non, dans la mesure où le virus s'affranchit totalement d'une frontière communale, d'une frontière départementale ou d'une frontière régionale.
Christophe Castaner, vous confirmez bien qu'il y aura des zones rouges et vertes et plus d'oranges. Elles auront bien basculé dans une couleur ou dans une autre à la date du 11 mai, voire même plutôt du 7 mai, puisque c'est à ce moment-là que vous établirez la carte définitive.
En fait, la carte évolue chaque jour. Je viens d'évoquer le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il était orange il y a deux jours, il est vert aujourd'hui. Et donc, il évoluera chaque jour, même après le 7 mai. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des indicateurs qui manquent pour certains départements. Ils ont été classés orange. Ils seront tous classés ou vert ou rouge pour le 11 mai. Mais en principe, dès le 7 mai, vous venez de le rappeler. C'est ce qu'Olivier Véran et le directeur général de la Santé ont rappelé aussi.
Une petite question pratique encore, Christophe Castaner. Si on va au-delà de cette limite de 100 km, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on risque une amende? Est-ce qu'il y aura des contrôles? Quelle sera la procédure?
Oui, nous déterminerons cela dans la semaine, mais l'objectif est de faire confiance aux Français dans leur sens de la responsabilité. Mais en même temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. Excusez-moi de cette citation, elle appartient à un homme politique russe qui a marqué l'histoire, je ne devrais peut-être pas l'utiliser, en l'espèce Lénine, mais il n'empêche que nous devrons mettre en place des systèmes de contrôle. Et donc, nous travaillerons là aussi avec les collectivités locales qui sont des appuis sur ce sujet, et nous travaillerons plutôt sur les zones de destination plutôt que sur les zones de départ.
Encore une question concrète sur les 100 km. Est-ce que si je reste dans cette limite, il est autorisé de franchir les frontières? Par exemple, d'aller en Espagne pour aller dans un restaurant ou sur une plage, puisque là-bas, le déconfinement est plus avancé?
Les frontières aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, sont fermées. Il y a des dérogations, notamment pour les transfrontaliers, les travailleurs qui vivent en France et travaillent en Allemagne, au Luxembourg ou en Espagne, dans le cas présent que vous évoquez. Il y a des dérogations spécifiques et des contrôles. Au 11 mai, nous ne lèverons pas la totalité des frontières, à la fois au sein de l'espace Schengen et au-delà de l'espace Schengen. Donc de toute façon, aujourd'hui et après le 11 mai, l'hypothèse que vous venez d'évoquer ne sera pas permis. Ensuite, nous travaillerons à la fois au niveau européen et à la fois en bilatéral avec chacun des pays voisins pour trouver les meilleures solutions avec un principe de réciprocité. Notre objectif est qu'on ait une doctrine européenne pour accompagner l'ouverture des frontières, mais même après le 11 mai, nous aurons des frontières infra-européennes qui resteront fermées.
Donc là, en espace Schengen, et jusqu'à quand resteront-elles fermées, Christophe Castaner, ces frontières ?
Jusqu'à nouvel ordre hors espace Schengen, et nous pensons pouvoir aller plus vite, mais ça va dépendre aussi de l'évolution épidémiologique de nos pays voisins, donc je ne vais pas vous annoncer une date maintenant. L'objectif est de pouvoir aller plus vite sur la circulation hors Schengen, et surtout l'objectif que nous portons avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et avec Laurent Nunez qui travaille avec moi sur ces sujets, c'est de faire en sorte que nous puissions améliorer le quotidien de ceux qui ont, pour des raisons personnelles, besoin de franchir cette frontière. Il peut arriver qu'un couple soit séparé et que l'enfant soit en garde alternée, mais de le pays voisin. Donc il y a quelques dérogations que nous allons rajouter, mais nous restons sur un process où les frontières, même infra-européennes, restent fermées. Et nous déterminerons, dans des discussions que nous avons chaque semaine avec nos partenaires européens, le moment où nous pourrons, tout en protégeant la santé des Français, lever ces frontières. Pour l'instant, ça n'est pas inscrit, ça n'est pas daté.
Adrien Gendre.
Vu ce que vous venez de nous dire sur les frontières et sur les 100 km, Christophe Castaner, est-ce que les Français peuvent espérer franchir ces frontières cet été pour leurs vacances ou au contraire doivent se préparer à passer les vacances à moins de 100 km de chez eux cet été ?
Vous savez, toute la stratégie qui a été présentée par le Premier ministre Rishi Sunak qui nous permet de lutter contre le virus, mais de le faire progressivement, prudemment, mais résolument. Mais progressivement, ça veut dire qu'on a fixé des échéances. Il a fixé l'échéance du 11 mai, il a fixé, avec le président de la République, il a fixé l'échéance du 1er juin. Et donc, faire des projections à 10 semaines n'est pas sérieux. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui d'attendre ces étapes-là avant de se projeter à l'été. Oui, il y aura des vacances cet été, mais elles ne seront peut-être pas identiques à celles qui était l'habitude de certains et qui partaient dans des pays étrangers, loin de l'Europe.
Mais donc à quel moment on sera fixé ?
Pardon. Mais Christophe Castaner, si vous dites que vous faites confiance aux Français, au sens civique des Français, pourquoi ne pas leur laisser la possibilité d'évaluer le risque et de partir en vacances s'ils le souhaitent, au-delà de nos frontières ? Ne pas les infantiliser en quelque sorte ?
Parce qu'ils ne font pas courir un risque à eux s'ils franchissent les frontières et s'ils vont dans des pays à forte propagation du virus. Ils font courir le risque à l'ensemble des Français. Et c'est la raison pour laquelle, quand le risque est plus élevé que la situation individuelle de tel ou tel, il faut encadrer ce risque-là. Et donc, c'est ce que nous faisons avec tous les pays européens, d'ailleurs avec quasiment tous les pays du monde. Aujourd'hui, il y a des contrôles à nos frontières pour éviter qu'il y ait une seconde vague qui vienne d'un pays étranger. Un certain nombre de pays, d'Asie en particulier, qui ont été dans les premiers touchés, ont vu aussi les conséquences de cela. Donc on fait appel au civisme, à la responsabilité, mais on l'encadre. Vous savez, la philosophie est simple. Avec le confinement, on prive de liberté, on ferme les commerces. Avec le déconfinement, on donne de la liberté, mais on l'encadre. On ouvre les commerces, mais on met en place un certain nombre de règles qui vont permettre d'éviter la diffusion et la propagation du virus.
Alors, parmi les éléments qui permettent d'éviter la propagation du virus, il y a bien sûr la question des masques, Christophe Castaner. Qui est récurrente ? Vous êtes critiqué sur cette question. Gérard Collomb, votre prédécesseur, sur les masques dénonce des allers-retours qui ont fait très mal votre prédécesseur au ministère de l'Intérieur. Et beaucoup de maires aujourd'hui, à Paris, à Lyon, à Nice, à Bordeaux, François Baroin, qui est à la tête de l'Association des maires de France, Marine Le Pen, eh bien réclame la possibilité de rendre obligatoire le port du masque dans l'espace public. Est-ce que si certains maires prennent des arrêtés en ce sens, eh bien vous les contredirez ? Est-ce que vous allez les empêcher de protéger en quelque sorte leurs administrés ?
Deux remarques. D'abord, sur le manque de masques et sur le fait que beaucoup nous le reprochent, c'est vrai, et nous n'avons certainement pas été assez clairs sur ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y a une pénurie mondiale de masques. Tous les pays du monde ont été confrontés à cela. Il y a actuellement des pays voisins aux nôtres qui ne disposent de quasiment pas de stock de masques. Ça n'est plus le cas de la France aujourd'hui. Souvenez-vous qu'au début de la crise, dans Wuhan, en Chine, La France a prêté, a avancé des masques à la Chine parce que même en Chine, il y avait des tensions sur ce sujet-là. Depuis la production, notamment chinoise, mais aussi française, je vous rappelle qu'elle sera à l'échéance du 11 mai multipliée par 5 par rapport à ce qu'elle était au début de la crise. Et donc aujourd'hui, on dispose d'un stock de masques différent. La deuxième question que vous me posez, c'est celle de savoir si je contredirais des maires qui prendraient des arrêtés rendant obligatoire le port des
Tout
masques.
À fait.
Je n'ai pas vocation, moi, à les contredire. D'abord parce que je travaille avec eux au quotidien. Ce que je sais, c'est que le Conseil d'État s'est déjà prononcé il y a quelques jours sur ce sujet et a cassé la décision du maire de Sceaux, en l'espèce, qui avait rendu obligatoire le port du masque. Le port du masque doit être obligatoire dans certains moments de la journée, dans les transports publics, par exemple, ou à l'école, on a évoqué la situation du collège, mais il ne doit pas être obligatoire partout, tout le temps. Et les maires, s'ils devaient prendre ces arrêtés, avaient leurs arrêtés cassés par le Conseil d'État. Ça n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de travailler avec les maires. Et Gérard Collomb, cette semaine, a, par exemple, évoqué dans un premier temps le caractère obligatoire, puis a dit « Non, on va faire en sorte d'équiper tous les Lyonnais de masques pour qu'ils puissent le porter le plus souvent possible. » Évidemment, je serai avec, à ses côtés, ainsi que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour accompagner ces mesures qui ne doivent pas avoir un caractère obligatoire, mais qui doivent avoir un caractère prudentiel. Mais... Et nous ne réussirons l'équipement des masques que si nous travaillons ensemble et pas les uns contre les autres.
Et quand Gérard Collomb dit que sur les masques, eh bien, vous avez failli, que vos allers-retours ont fait très mal, vous lui répondez quoi ?
Ben, je lui réponds ce que, dans la première partie de ma réponse précédente, j'ai évoqué. J'ai évoqué la pénurie mondiale. J'ai rappelé la situation que la Chine a connue. Je peux évoquer la situation qu'un pays voisin comme la Belgique connaît aujourd'hui, ou les États-Unis,
non,
vous savez
parlait,
la situation.
Christophe Castaner, il
Donc,
parlait du fait que dans
oui,
un premier temps,
avions...
vous disiez que c'était pas nécessaire et que maintenant, eh bien, vous dites que globalement, dans les transports, et on va y venir, c'est nécessaire. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il dit.
Ah mais vous savez, ce que l'on dit, c'est ce que disent les professionnels et les conseils scientifiques du milieu sanitaire. Au début, j'ai entendu l'Organisation mondiale de la santé, j'ai entendu l'Académie de médecine, j'ai entendu tous les professionnels sur ce sujet, et je n'en fais pas partie, nous expliquer que le port du masque de façon systématique n'était pas nécessaire. Puis il y a eu des évolutions. L'Académie de médecine a, il y a quelques semaines, donné une position qui est différente de celle qui était portée au début de la gestion du combat contre le Covid. Et donc, nous nous adaptons. Nous suivons aussi les préconisations
donc,
de la science sur ces sujets-là. Et nous gérons aussi une pénurie mondiale de masques.
C'était une gestion de la pénurie, tout de même. Guillaume Roquette.
Vous dites que vous vous adaptez.
Monsieur Sportouche, si vous... Monsieur Sportif, je voudrais juste vous corriger. Si vous avez bien écouté le début de ma réponse précédente, j'ai évoqué la pénurie et la pénurie mondiale. La France avait un stock de masques pour son usage habituel de 20 semaines. Mais compte tenu de la crise mondiale que nous avons connue, ce stock de masques n'est pas apparu suffisant. Donc la France et le gouvernement ont fait un choix. Celui d'équiper en priorité les personnels de santé, ceux qui sauvent des vies. Le ministère de l'Intérieur a fait un choix. Nous disposions de 1 400 000 masques de type FFP2. J'ai fait le choix de les donner aux professionnels de santé parce que c'était la priorité que nous avions la nôtre. Donc oui, il y a une pénurie mondiale de masques et nous avons fait des choix. Et nous les assumons.
Guillaume Roquette.
Mais puisque vous avez changé, pourquoi ne changez-vous pas aussi la règle pour permettre aux maires qui le souhaitent d'imposer le masque et avec une loi qui permettrait au Conseil d'État de laisser faire les maires?
Vous savez, je crois que la France est une et indivisible et que le rôle du Conseil d'État, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national. Donc on pourrait effectivement décider que la France est composée de 35 000 petites républiques où chacune aurait ses propres règles. Je ne pense pas que ce serait la France dont nous rêvons. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis le début de la gestion de la crise du Covid et du confinement, j'ai demandé chaque soir, parce que je suis en visioconférence avec eux chaque soir, aux préfets de région de toujours travailler avec les élus locaux. Et il y a eu beaucoup de bruit médiatique sur quelques arrêtés pris par quelques maires sur les 35 000 concernant le port du masque obligatoire, mais pas sur l'essentiel du travail
vous
quotidien.
Vous travaillez avec eux, mais vous les empêchez de prendre les décisions qu'ils souhaitent.
Masque.
Vous travaillez avec eux, dites-vous, mais vous les empêchez de prendre les décisions qu'ils souhaitent.
Attendez, je vais juste vous donner un éclairage. Je ne suis pas le Conseil d'État. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Et donc, je n'empêche pas, alors que je viens de vous expliciter à plusieurs reprises, que c'était le Conseil d'État qui avait décidé cela. C'est la plus haute autorité administrative de notre pays en matière de droit. Donc voilà la réalité. Ensuite, vous savez, je travaille beaucoup avec les élus. Nous étions la semaine dernière en visioconférence avec le Premier ministre et les ministres directement engagés. Ce débat que vous me posez, cette querelle que vous voulez faire vivre, ils ne la font pas vivre. Au contraire, ils réclament de travailler au quotidien, plus encore avec les préfets. Et interroger François Baroin et toutes les autorités représentant les associations d'élus qui étaient là, Gérard Collomb était là aussi, à aucun moment ce débat sur les arrêtés de masque n'a été posé par les collectivités locales.
Adrien
Jean. Parce qu'au quotidien, nous travaillons à leur côté et ensemble.
Alors, on va rester sur les questions de masque et de collectivité, mais dans un lieu, pour le coup, Christophe Castaner, où il va être obligatoire, ce masque, il s'agit des transports en commun. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, demande que les employeurs puissent délivrer des attestations pour les salariés qui ont une nécessité de prendre les transports pour se rendre sur leur lieu de travail et éviter la congestion, l'engorgement dans des transports où, on le sait, l'organisation des flux va être très compliquée à partir du 11 mai. Est-ce que vous y êtes favorable? Sinon, qu'est-ce que vous lui proposez pour gérer ces flux? Elle estime qu'elle aurait besoin de 5000 personnes pour organiser tout cela.
D'abord, ce que je note, c'est que Valérie Pécresse est très volontariste globalement aux côtés de l'État pour agir avec sa région contre le Covid. Et c'est une bonne chose. Et nous travaillons depuis de longues semaines côte à côte sur ces sujets, sur la question des masques précédemment et maintenant sur la mise en œuvre d'un plan pour la reprise des transports communs. La loi qui a été présentée hier en Conseil des ministres est simple. Les autorités organisatrices de transport, la région, et les opérateurs de transport doivent arrêter un plan qui permet d'avancer. Mais évidemment, nous serons à leur côté. Elle a présenté un plan que j'ai vu ce matin dans la presse. Nous allons y travailler. Dès demain, nous prendrons contact avec elle pour affiner cela. Ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on réinvente un dispositif d'attestation pour pouvoir voyager, alors que nous faisons le choix de limiter au maximum les attestations pour sortir de chez soi. Ce que je souhaite, c'est qu'un étudiant qui soit en thèse puisse peut-être venir sur la capitale pour reprendre ses travaux pour sa thèse. Or, il n'aura pas d'attestation
professionnelle. Donc, c'est une fin de non-recevoir.
Nous allons travailler ensemble. Il faut... Non, je trouve que vous êtes brutal dans vos propos. Moi, je ne le suis pas. Je vous indique qu'au contraire, on va travailler ensemble et j'insistais sur le fait qu'on a déjà travaillé ensemble et on va affiner cela. Et ensuite, il faudra effectivement renforcer les moyens. Les forces de sécurité intérieure seront mobilisées, mais elles n'ont pas vocation à gérer la sécurité dans les transports. Il y a des forces spécifiques à la région qui font les contrôles. Et dans le texte de loi que nous avons adopté hier en Conseil des ministres et qui sera voté cette semaine par le Parlement, je le souhaite, il y a la possibilité de faire en sorte que ces agents contrôleurs puissent aussi verbaliser et faire le contrôle eux-mêmes. Donc nous serons avec eux, avec les forces de sécurité, avec les sociétés privées de sécurité. Et je souhaite aussi que le syndicat de transport fasse appel aux sociétés privées de sécurité. Sécurité qui ont un rôle déterminant à jouer, nous donnerons les moyens de trouver des solutions.
Et de combien sera cette amende si jamais le port du masque n'est pas respecté?
135 euros, nous dit-on. On va affiner cela dans la semaine. Aujourd'hui, on a le modèle à 135 euros, la référence à une contravention de 4e classe, mais ça n'est pas définitivement arrêté au moment où je vous parle. Donc c'est une des possibilités sur lesquelles nous travaillons. Elle est juridiquement facile et opérationnelle. Le Premier ministre se prononcera sur ce sujet dans les jours
qui viennent. Mais vous, Christophe Castaner, vous êtes ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pensez que 135 euros est une contravention qui serait d'un bon montant ou peut-être un peu trop haut ?
Vous savez, j'ai plaidé pour qu'on passe à 135 euros l'amende pour le défaut d'attestation. Donc moi, je considère que c'est un montant raisonnable qui permet effectivement d'être significatif pour ceux qui utilisent les transports en commun et de faire en sorte que chacun respecte la règle collective.
Christophe Castaner, 30 secondes avant la pause.
Quand on se déplaçait jusqu'à présent avec une attestation qui n'était pas en règle, on devait rentrer chez soi. Si demain, on est contrôlé sans masque dans les transports, est-ce qu'on pourra ou non poursuivre son trajet, comme quand on n'a pas de titre de transport? Ou est-ce que là encore, on devra quitter les transports en commun?
Vous savez, il faut être de bon sens quand on décide de quelque chose ou quand je vais répondre à votre question. Si on considère que quelqu'un fait courir un risque à l'ensemble des gens qui sont dans le wagon parce qu'ils ne portent pas de masque, est-ce que je vais lui laisser continuer son voyage et donc continuer à faire courir un risque? La réponse est non. Donc soyons de bon sens. Quelqu'un qui fait courir un risque doit rentrer chez lui ou doit s'équiper du masque si on considère qu'il met en risque celles et ceux qui voyagent avec lui et qui, eux, respectent la règle.
La réponse est claire. Christophe Castaner, on vous retrouve dans quelques instants pour ce grand jury. À tout de suite.
Vous êtes artisan, commerçant et vous voulez mettre en avant une de vos initiatives?
Participez aux Pro ont du talent 2020 en vous inscrivant dès maintenant sur lesproontdutalent.fr.
Et si vous agissez pour la sécurité de vos salariés sur la route, candidatez dans la catégorie sécurité routière.
Un événement organisé par Artisan Mag et Commerce Magazine en partenariat avec RTL.
Chaque dimanche sur Paris Première, retrouvez les têtes brûlées avec l'inoubliable Robert Conrad. La série culte qui raconte l'histoire vraie de Papy Boynton à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse qui faisait régner la terreur dans le ciel du Pacifique Sud.
Montrez-moi un héros et je vous démontrerai que c'est un malheureux.
Les têtes brûlées en version remasterisée, ce soir à 20h50 sur Paris Première.
Carrefour. Chez Carrefour et Carrefour Market, toutes nos équipes sont mobilisées pour assurer la sécurité de tous. Nos chariots, paniers, scannettes et balances sont désinfectés tout au long de la journée. Nous privilégions le paiement sans contact. Nos caisses sont équipées de mobilier de protection et tous nos collaborateurs ont à disposition masques, gants et gel. Une distance minimale est assurée entre chacun et nous réservons un accès prioritaire en caisse aux personnes les plus vulnérables et au personnel soignant. Ensemble, restons mobilisés et adoptons les gestes barrières. Carrefour.
Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr.
RTL, il est 12h30. Les infos, Olivier Bois.
Et d'abord, cette information importante donnée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, invité du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Tous ceux qui avaient choisi juste avant le début du confinement de quitter les grandes villes pour s'isoler ailleurs peuvent rentrer chez eux cette semaine pour anticiper le 11 mai. Il leur faudra tout de même remplir leur attestation de retour au domicile professionnel. La date du 11 mai reste l'objectif. Christophe Castaner se dit persuadé qu'il sera atteint. Même si Olivier Véran, ministre de la Santé, dans une interview ce matin au journal Le Parisien, aujourd'hui en France, met en garde. S'il y a un relâchement, si le nombre de cas augmente trop fortement, la date pourrait être remise en cause. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, on l'a compris, le nombre de victimes continue de baisser en France. 166 personnes sont mortes du Covid-19 hier. C'est en net recul. Il y a toujours également moins de personnes en réanimation. Sur le plan de déconfinement, les sénateurs, les républicains veulent saisir le Conseil constitutionnel. Leur chef de file, Bruno Retailleau, estime qu'il laisse trop de responsabilités aux élus locaux. En substance, il craint que les élus puissent être attaqués en justice par des citoyens qui considéreraient avoir été mis en danger. Dans le reste de l'actualité, le chanteur algérien Idir est mort. Il avait 71 ans. Il était la grande figure de la chanson Kabyle à travers le monde. Il avait en France collaboré notamment avec Maxime Le Forestier ou encore Zebda. La météo cet après-midi, du soleil dans l'Est et dans le Sud, également entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Pour le reste, ce sera un temps très instable et humide.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Christophe Castaner qui est en direct depuis son ministère et nous sommes en studio avec Adrien Gindre de LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, question sur les municipales. On sait que le second tour des élections municipales n'a pas eu lieu. En revanche, on ne sait toujours pas quand aura lieu la réorganisation de ces élections. Est-ce que ce sera en juin, en septembre ou en octobre?
La règle est simple. Elle a été votée par la loi du 23 mars. Elle est que nous devrons présenter au mois de mai, le 23 mai précisément, au Parlement, un rapport sur l'état sanitaire de notre pays et sur le sentiment, l'analyse du Conseil scientifique qui dira si pense qu'on peut réunir le second tour dans 5000 des 35000 communes qui n'ont pas élu la totalité de leurs élus lors du premier tour au mois de juin. Parce que l'élection, et c'est le texte de loi, devra se faire pour le second tour au plus tard au mois de juin. Donc soit le 21, soit le 28 juin. Nous prendrons la décision avec le Parlement nous présenterons sur la base de ce conseil scientifique des éléments de réponse. En parallèle, j'ai demandé à mes services de travailler sur l'élaboration d'un texte de loi, parce qu'il faudra un texte de loi pour... Si nous ne pouvons pas faire l'élection du second tour au mois de juin, fixer avec le Parlement une nouvelle date pour, non pas seulement le second tour, mais le premier et le second tour dans les communes qui n'auraient pas élu leurs conseils municipaux, pour faire en sorte que nous puissions caler cela. J'ai travaillé sur une hypothèse fin septembre, la presse s'en est fait état ce matin, mais ça n'est qu'une hypothèse. Ce que je souhaitais, c'est pouvoir être immédiatement prêt Si nous prenons la décision avec le Parlement de ne pas faire le second tour au mois de juin, de pouvoir proposer une solution et que nous fixions un cap, parce qu'il est essentiel que nous déterminions ensemble ce cap-là.
Mais très franchement, Christophe Castaner, est-ce qu'on peut imaginer les élections municipales en juin ?
Oui, si nous réussissons la fin du confinement et si nous gérons correctement le déconfinement, ça peut être un objectif.
Il faudrait que tous les départements soient en vert.
Ce que je vous annonce, c'est une méthode.
Il faudrait que tous les départements soient en vert pour organiser ces élections.
Vous savez, il faudrait que les indicateurs soient bons et donc à ce moment-là, c'est pas seulement sur vert ou rouge qu'il nous faut nous prononcer. Mais c'est globalement sur une analyse du conseil scientifique. On va leur faire confiance, ils vont nous donner les clés, je ne suis pas scientifique. Et en fonction de ce qu'ils nous diront, nous prendrons la décision avec le Parlement en responsabilité politique. Nous souhaitons travailler avec l'ensemble des forces qui sont au Parlement, avec l'ensemble des partis politiques. Cette décision, il faut que nous la prenions ensemble.
Adrien Gendre.
Qu'est-ce que vous nous dites en revanche, Christophe Castaner, sur l'installation des conseillers municipaux qui ont été élus dès le premier tour? Ça concerne la très grande majorité des communes de France, puisqu'on parle là de 30 000 communes et qui sont en attente de pouvoir installer leurs nouvelles équipes. C'est très important pour la gestion quotidienne et en particulier la gestion de la crise dans les semaines et les mois à venir.
Le plus vite possible. Voilà la réponse la plus claire que je vous donnais. Nous aurons là aussi une analyse. Ça a été souhaité par le Parlement. Ça n'était pas dans le texte que j'avais présenté. Nous attendrons le rapport du conseil scientifique qui nous dira les conditions dans lesquelles ce rassemblement, qui généralement est un rassemblement s'il se fait avec peu de public, d'une quinzaine de personnes. Et donc ce rassemblement, avec quelques règles de respect des gestes barrières, pourra se tenir. Notre souhait est que nous allions le plus vite possible. Fin mai, début juin pourrait être un bon objectif.
Christophe Castaner, on en revient à une question qui interroge aussi, c'est celle de l'isolement des personnes malades ou suspectées d'être malades. Vous avez renoncé à l'isolement contraint dans la loi que vous allez présenter au Parlement. Est-ce que se passera-t-il si une personne justement malade ou suspectée d'être malade refuse de s'isoler volontairement, puisque vous avez retenu le principe du volontariat? Que se passera-t-il pour elle?
On a retenu le principe de la confiance. Est-ce que vous imaginez sérieusement qu'une personne qui se sait atteinte du Covid va faire prendre un risque à sa famille, à ses proches, à ses amis? Moi, je n'y crois pas. Et il n'y aura peut-être que quelques cas marginaux, et donc les professionnels de santé qui l'accompagneront au quotidien auront les moyens de le convaincre, parce qu'ils appelleront à la conscience de chacun. Et je suis convaincu que de toute façon, il n'y a pas de respect de l'isolement si une personne ne l'accepte pas. Même si vous le menacez d'une amende de 135 euros, s'il ne l'accepte pas. Et donc je fais vraiment confiance d'abord aux Français, dans leur capacité à comprendre le risque, mais aussi aux professionnels de santé qui vont l'accompagner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui est atteint par le Covid a un entretien téléphonique presque quotidien et en tant que de besoin, ça peut aller au-delà. Ben là, ce sera le cas. Donc, je fais vraiment confiance d'abord aux Français, mais aussi aux professionnels de santé qui vont l'accompagner et qui vont le convaincre.
Christophe
et nous offrons des solutions simples. Oui. Soit l'isolement à domicile, soit l'isolement dans des hôtels où nous prendrons en charge l'alimentation et la protection de la personne concernée.
Mais Christophe Castaner, vous nous parlez de confiance. Pourquoi ne pas avoir la même confiance aux Français quand il s'agit d'aller sur les plages, d'aller dans des bars et des restaurants? On voit qu'en Espagne, ils sont ouverts à hauteur de 30% de leur capacité. Pourquoi ne pas dire aux Français, écoutez, on va rouvrir et on vous fait confiance, comme on vous fait confiance si jamais vous tombez malade? Il n'y a pas une forme de contradiction?
Et il n'y a pas, vous savez, moi je fais confiance aux gens qui roulent sur la route pour rouler prudemment. Et pourtant, on a mis en place des limitations de vitesse. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe là. On fait confiance aux Français, mais on met des limitations, on encadre, non pas la liberté pour l'empêcher, mais parce que à un moment donné, abuser de sa propre liberté, c'est faire prendre un risque à tous. Et donc c'est cela la réalité. Et donc nous appliquons une règle qui permet de faire confiance aux Français, mais en même temps de limiter et d'encadrer face à certains risques et certains abus. La question des bars, c'est parce que vous savez très bien que ce sont des lieux de proximité dans lesquels, au fond, en prenant l'apéro, comme on peut le faire sur la place de son village, on développe le risque de transmettre le Covid. Et donc c'est cela. Mais vraiment, ayez en tête la liberté de conduire, qui doit respecter quelques règles. Eh bien demain, parce que nous allons mener un combat de long terme contre le Covid-19, parce qu'il n'y a pas d'un coup de baguette magique de solution qui semble arriver maintenant, et je ne vais pas y revenir, vous savez cela, on va apprendre à vivre, on va respecter quelques règles progressivement. Vous évoquez les plages, le moment viendra pour lever cette interdiction sur les plages en mettant en place quelques contraintes. Mais vous savez, je vais être clair avec vous, l'interdiction des plages, elle ne vise pas à empêcher 4 personnes d'aller sur la plage. Elle vise justement à empêcher que certains fassent 300 km pour aller au mois de juin, au mois de mai plutôt, sur une plage. C'est cela la réalité. C'est peut-être d'éviter aussi l'attractivité d'un grand week-end à la plage et que du coup on s'affranchisse de toutes les règles et on fasse courir des risques à soi-même, à ceux qui sont dans la voiture avec vous, à ses proches, à sa famille, à ses enfants. C'est cela la réalité.
Parce que vous craignez les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, très clairement.
Oui. Je crains que, vous savez, le confinement, vous le savez tous, est particulièrement difficile à vivre. C'est un effort que les Français n'avaient jamais vécu, subi, et on sait tous la réalité de l'effort que ça représente. Donc, il peut y avoir un effet soupape avec la levée, la proximité de la levée du confinement le 11 mai et après le 11 mai. Et à ce moment-là, considérer qu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Eh bien non, on ne vivra pas demain comme on a vécu avant le Covid, et on ne vivra pas au mois de mai, au mois de juin, et nous lèverons les règles progressivement si nous gagnons ensemble le combat contre le Covid.
Guillaume Roquette.
Vous parliez de confiance, vous ne faites pas confiance aux évêques catholiques français quand ils vous ont proposé un plan de distanciation pour pouvoir rouvrir les églises au culte avant le mois de juin?
Vous savez, moi je ne fais pas la différence entre tel ou tel culte. Je travaille avec l'ensemble des cultes. Le président de la République les a réunis 2 fois déjà et encore la semaine dernière. Cette semaine, j'étais en contact avec les musulmans de France, avec les juifs de France, avec les catholiques aussi. J'étais en contact avec le pasteur Claveroli qui préside une instance de concertation de l'ensemble des cultes dans notre pays. Et donc, nous avons le sentiment que réouvrir tous les lieux de culte pour célébrer les différents offices que l'on peut trouver dans l'ensemble de ces lieux de culte, par exemple en période de Ramadan, n'est pas la meilleure idée pour lutter contre la promiscuité. Et donc, on a fixé cette échéance au mois de juin. Le pasteur Claveroli m'a fait part du souhait du collectif d'étudier avec eux la possibilité de réduire cette échéance. Je veux bien y travailler. Ensuite, j'ai été interpellé, je l'ai vu, essentiellement par des lettres ouvertes d'ailleurs, et des lettres ouvertes qui ne me sont pas parvenues directement, mais qui ont été communiquées à la presse avant, par le culte catholique. Je m'en suis ouvert avec le responsable des évêques de France. Nous travaillons sur des solutions, comme nous avons prévu par exemple depuis le début du confinement, que les églises puissent rester ouvertes. Les mosquées pouvaient l'être, mais le culte musulman a fait le choix de les fermer. Les églises sont restées ouvertes pour prier si on le souhaite.
Mais si on
et ensuite, j'ai pu noter aussi que l'ensemble des cultes qui ont vraiment joué le jeu dans le combat contre le Covid pendant la période de confinement ont mis en place des solutions comme la messe, par exemple, filmée et diffusée. Donc je pense qu'il nous faut maintenir cet effort. Je sais qu'il est difficile pour ceux qui veulent pratiquer leur foi, mais je pense que la prière, elle se fait dans son rapport à celui que l'on accompagne, célèbre, chacun choisira le mot en fonction de sa religion et soi-même, et n'a pas forcément besoin de lieux de rassemblement où on ferait courir un risque à l'ensemble de la communauté religieuse.
Adrien Gendre.
Christophe Castaner, il y a un instant, on évoquait les réponses du gouvernement, la question de l'isolement. Dans l'arsenal, il y a aussi la mise en place de brigades sanitaires pour retrouver les contacts de chaque malade, pouvoir remonter la chaîne de contamination, la briser. En revanche, on n'entend plus du tout parler de l'application Stop Covid évoquée toutes ces dernières semaines par l'exécutif. Est-ce qu'on doit comprendre, Christophe Castaner, qu'elle est abandonnée ou est-ce que vous nous dites non, le gouvernement va bien finir par la mettre en place ?
Non, j'ai entendu Olivier Véran qui a répondu à cette question hier. Elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas prête aujourd'hui. Elle n'est pas prête aujourd'hui et donc on n'en connaît pas les contours. Le Premier ministre s'est engagé à ce que, si elle est prête, si on fait la démonstration qu'elle est efficace, d'ailleurs, pour lutter contre le Covid, elle soit présentée au Parlement, qu'il y ait un débat au Parlement sur ce sujet. De ce que je comprends, c'est pas un sujet que je pilote au ministère de l'Intérieur, l'application n'est pas techniquement prête. Donc ça ne sert à rien de parler sur des présupposés, de s'emballer sur des fantasmes divers et variés. Si cet outil permet de lutter activement contre le Covid tout en préservant la liberté de chacun, le débat aura lieu et une décision sera prise.
Et vous allez mettre en place des brigades, Christophe Castaner, pour justement identifier eh bien, les malades et ceux qu'il pourrait avoir comme personnes contact. Vous avez choisi pour cela de rémunérer les médecins pour récolter les données. Vous aviez peur qu'il n'adhère pas suffisamment au procédé, ça c'est ma première question. Et y aura-t-il des membres du ministère de l'Intérieur qui feront partie de ces brigades, puisque se pose la question de leur confidentialité, de la confidentialité des données?
D'abord, on peut faire confiance aux membres du ministère de l'Intérieur pour savoir gérer aussi la confidentialité des données. Mais ça n'est pas le cas. Et je vais répondre tout de suite à cette question. C'est un dispositif qui est mis en place, suivi et organisé par le ministère de la Santé et des Solidarités. Le ministère de l'Intérieur n'est pas pilote ni partie prenante de cette équipe d'anges gardiens, je reprends le mot du ministre de la Santé, qui sera chargée d'identifier celles et ceux avec qui vous avez été en contact pour les prévenir du risque qu'ils ont eu et qu'ils pourraient connaître en étant, sans le savoir, porteurs du Covid-19. Et donc ça, c'est un dispositif qui est en train d'être organisé sous l'égide du ministère de la Santé avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a un vrai savoir-faire, ça a déjà été expérimenté, et ça va monter en puissance avec des personnels qui sont liés à la santé sans être pour autant des professionnels de santé. Et puis, il faut des professionnels de santé. Il est normal, puisqu'on leur demande un travail, et pour répondre à votre question pour les médecins, qu'ils soient rémunérés pour cela.
Alors, Guillaume Roquette, puisque vous êtes aussi le ministre de la Sécurité routière.
Oui, plusieurs maires veulent fermer des artères de leur ville à la circulation automobile pour favoriser le vélo et décharger les transports en commun. Anne Hidalgo veut par exemple fermer la rue de Rivoli à la circulation automobile. Est-ce que vous allez soutenir ce genre d'initiative ?
Ce que j'ai demandé au préfet, c'est de travailler dans le dialogue avec les maires pour trouver les bonnes solutions. Donc oui, il faut pendant cette période avoir en tête que certaines personnes ne voudront pas utiliser les transports en commun et voudront pratiquer le vélo pour se rendre au travail. Donc faisons en sorte de leur faciliter la vie et de le faire en sécurité.
Mais peut-être que ces personnes...
Il y a des propositions portées par Anne Hidalgo, le préfet de police y a contribué aussi. Et nous ne nous opposerons pas à tout ce qui permet de garantir une bonne circulation à Paris qui est nécessaire, en particulier pour les engins de secours. Il est nécessaire, soit le cas, et ce sera le cas sur la rue de Rivoli, mais en même temps de soutenir les déplacements en vélo. Moi, j'y suis d'une façon militante favorable, mais j'y suis aussi, comme ministre de l'Intérieur, favorable.
Mais il y a des gens qui vont venir travailler à Paris, venant de banlieues lointaines, et pour qui le vélo n'est pas possible. On va les empêcher d'entrer en voiture ?
Il y a tout autour. Non, on n'empêchera pas les gens d'entrer en voiture, et ce n'est pas le projet de Madame Anne Hidalgo, et ce n'est pas le projet du préfet de police. Il y a tout autour de Paris des parkings dits de dissuasion qui permettent ensuite d'utiliser les transports en commun. Il nous faut sur ce sujet veiller aussi à cela.
Il y a peu de parkings.
Et puis, la maire de Paris a présenté, je crois, 3 axes. Il n'y en a pas beaucoup, vous avez raison. Mais il en existe quelques-uns. Et la maire de Paris a présenté 3 axes, nord-sud et est-ouest, mais pas la totalité de Paris, qui serait interdite aux véhicules.
Adrien Gindre.
Puisqu'on est sur les maires, Christophe Castaner, beaucoup d'entre eux s'inquiètent de leurs responsabilités qui pourraient être engagées. Ils sont en particulier chargés de la réouverture des écoles. Il y a des élus, des parlementaires, y compris votre majorité, qui interpellent le gouvernement à ce sujet. Hier, vous avez indiqué qu'il existait déjà une loi, c'est vrai. Est-ce que vous considérez qu'elle est suffisante pour que les maires n'aient pas à s'inquiéter ou au contraire qu'il faudra la compléter comme vous êtes encouragé à le faire ?
Vous savez, j'ai été maire pendant 17 ans et donc je sais ce qu'est la prise de risque, mais je n'ai pas eu à gérer comme maire une crise aussi importante que celle du Covid et je comprends parfaitement les inquiétudes, les doutes et les questionnements des maires. Aujourd'hui, il existe un dispositif législatif que je vais vous présenter en détail, mais qui protège vraiment les maires et qui, pour que la responsabilité soit engagée, il faut qu'il y ait une sorte de faute intentionnelle en décidant de s'affranchir de toutes les règles pour être mise en cause. Mais s'il y a un débat, et si notamment les parlementaires, vous les évoquez, souhaitent affiner un certain nombre de choses et apporter des précisions sur ce sujet, c'est parfaitement légitime. Nous devons combattre le Covid avec les maires, mais nous devons aussi les protéger.
Et donc, est-ce qu'il y aura une...
Mon parcours personnel
un projet de loi
m'amène à cela.
Est-ce qu'il y aura,
un
règlement, un décret
Alors, on ne peut pas faire cela par décret, il faudra un texte de loi. Oui. Je sais qu'il y a une proposition de loi qui a
Vous
été déposée, je crois, au niveau du Sénat et qui est inscrite à la discussion. Je ne la connais pas, j'en connais pas le contenu, elle n'a pas été analysée encore. Mais je vous le dis, si ça permet d'affiner, mais de ne pas ôter la responsabilité des maires. Parce que quand on a un mandat, on doit le faire en responsabilité. Mais d'éviter les abus, les recours abusifs, évidemment, nous soutiendrons cette démarche.
Christophe
Mais
Castaner.
Quand on est en responsabilité, on assume cette responsabilité et les maires le font.
Christophe Castaner, les Français ont confiance dans leur maire, ils ont beaucoup moins confiance dans leur gouvernement. Je le disais en introduction de cette émission, 62% des Français se disent aujourd'hui insatisfaits de l'action du gouvernement, selon un sondage révélé par nos confrères du Monde. Il s'agit du plus fort taux depuis le début de la crise. Et je disais que vous êtes beaucoup moins populaire qu'en Grande-Bretagne ou en Italie, où pourtant le nombre de morts y est plus élevé. Est-ce que vous payez des erreurs que vous avez faites depuis le début de cette crise? Comment vous l'expliquez?
Moi, j'ai lu ce sondage publié hier sur ce sujet et je ne vais pas me lancer dans une réflexion hasardeuse sur la psychologie des peuples européens. Je sais l'inquiétude des Français, je sais l'impatience des Français et c'est tout à fait compréhensible. Je sais aussi leur exigence et je sais que sur le sujet du Covid, ils se montrent exigeants. Si vous les interrogez sur l'avenir du pays, sur la situation économique du pays, ils sont toujours en décalage par rapport à l'enthousiasme de certains pays européens. Mais ce que j'ai vu aussi dans les études d'opinion, c'est que si vous demandez aux mêmes Français, est-ce qu'il y a des responsables politiques de notre pays qui feraient mieux qu'Emmanuel Macron? Si j'ai bien en tête le sondage, aucun n'apparaît mieux placé. Donc oui, on paye aussi des erreurs de communication, parce que nous en faisons tous. On paye aussi une situation d'inquiétude, de peur. Et donc, il nous faut, sur ces sujets, apporter de façon permanente les meilleures réponses en fonction de ce que nous avons comme éléments d'information scientifique. Il nous faut expliquer, il nous faut faire la pédagogie. C'est ce que je tente de faire avec vous. Et j'espère pouvoir un peu rassurer dans une opinion publique qui est naturellement inquiète. Et je la comprends.
Et quand Marine Le Pen dit que le monde d'après ne pourra pas se faire avec ceux qui se sont tant trompés et ont tant trompé les peuples, qu'est-ce que vous lui répondez? Elle se prépare pour la présidentielle de 2022. Et est-ce que dans ce cadre-là, vous pensez qu'Emmanuel Macron est toujours le meilleur candidat pour l'affronter?
Vous savez, d'abord, nous verrons si Emmanuel Macron est candidat. Et donc, ça, c'est un sujet que je ne vais pas commenter. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Marine Le Pen, elle est déjà candidate à l'élection présidentielle. Elle a déjà annoncé sa candidature. Et au fond, ça n'a surpris personne parce que ça fait des années qu'elle est candidate à toutes les élections. Donc, c'est son choix politique de vouloir faire de la gestion de la crise du Covid un argument commercial pour sa campagne. Nous, aujourd'hui, nous devons agir pour les Français, travailler pour les Français, accepter les critiques d'où qu'elles viennent, y compris de Marine Le Pen, mais faire en sorte que ces critiques soient fondées. Et puis si le moment venu, nous devons faire aussi l'exégèse de toutes les erreurs d'analyse de Mme Le Pen, nous le ferons et j'y prendrai toute ma part.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, bonjour. David Lebars, syndicat des commissaires de la police nationale. J'ai une question simple. Pouvez-vous nous donner l'assurance et la garantie que le Covid-19 sera bien reconnu comme maladie professionnelle pour tous les policiers, de tout grade, sachant que dès le début de cette crise, et vous le savez, ils n'ont pas bénéficié des moyens de protection nécessaires et suffisants, non seulement pour se protéger vis-à-vis de la maladie, mais également pour assurer leur mission qui consistait à contrôler le confinement. Je vous remercie pour une réponse claire et précise de votre part.
Alors je vais faire deux réponses, parce qu'à mon sens, il y a deux questions dans le propos de David Lebars, que je salue, que je connais bien, et je sais son combat, non pas pour les commissaires, mais pour la police en général et pour nos forces de sécurité intérieure en général. La première, c'est sur l'équipement des policiers. Je voudrais quand même rappeler que avant même le début du confinement, nous avions diffusé 810 000 masques pour l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure. Puis, dans la semaine qui a suivi, 300 000 supplémentaires pour qu'ils aient, de façon systématique, un kit de protection et qu'ils puissent, en fonction de la situation qu'ils apprécient, et je leur fais confiance pour apprécier cela, s'équiper d'un masque pour se protéger. Depuis, nous avons multiplié les moyens de protection. Près de 11 millions de masques ont été distribués sur le territoire national pour nos forces de sécurité intérieure. 15 millions supplémentaires le seront d'ici l'échéance du 11 mai. Et puis, on a renforcé le matériel avec des lunettes, avec des visières, avec des masques grand public, parce que effectivement, nous devons protéger nos forces de sécurité intérieure dans leur action, mais en appliquant une doctrine nationale qui est celle que j'ai rappelée tout à l'heure, et notamment sur les masques FFP2. Je me suis fait critiquer en interne à cette maison parce que j'ai pris la décision de mettre notre stock de masques FFP2 à disposition du personnel soignant dans nos hôpitaux, et je ne regrette pas. Non pas les critiques, mais cette décision. Et puis ensuite, il y a la question de la reconnaissance du Covid-19 comme une maladie professionnelle. J'ai été très clair sur ce sujet dès le 7 avril. J'ai saisi les ministres concernés, le ministre de l'Action publique, Gérald Darmanin et Olivier Véran, pour demander que, non pas tous les policiers, Je mets un bémol au propos de M. Lebars. Mais les policiers qui ont été exposés au contact de nos concitoyens, notamment pour faire des contrôles, et nous avons demandé qu'ils aillent prendre cet engagement-là sur le terrain, puissent voir s'ils étaient atteints du Covid, cela reconnu comme une maladie professionnelle. Le dossier est toujours en cours d'instruction, je le souhaite.
On vous entend, Christophe Cassin. Une petite question très rapidement, avant question nette, Adrien Gindre.
Le parquet antiterroriste a eu l'occasion de se saisir de certains faits pendant le confinement y compris. Est-ce que vous pouvez nous dire également si des attentats ont été déjoués pendant cette période ?
Pas pendant le confinement. Il y a eu un attentat déjoué depuis le début de cette année. Il y a par contre des interventions très régulières de nos services et de la DGSI en particulier. Et puis plus globalement, j'ai veillé à ce que la lutte contre le terrorisme reste une priorité. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels les préfets, nos forces de sécurité intérieure, les renseignements en particulier, sont mobilisés. Les groupes d'évaluation départementaux qui pilotent cela dans chaque département ont continué à se réunir parce que c'est un combat contre lequel
il y a eu des attentats déjoués.
Un certain nombre de MICAS, 5. J'ai répondu à cette question, un seul depuis le début de cette année et pas pendant le confinement. Par contre, il y a eu une interpellation, par exemple, la semaine dernière d'un individu suspect. L'enquête est en cours et nous verrons la suite. Il y a des MICAS qui sont un dispositif de contrôle particulier. 5 ont été mis en place pendant la période du confinement.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Christophe Castaner. Marine Le Pen demande à l'instant que les masques soient remboursés par la Sécurité sociale. Est-ce que c'est une solution que vous pouvez envisager ?
Je ne suis pas ministre de la Santé et je ne vais pas répondre aux interpellations à l'instant de Madame Le Pen.
Oui, mais vous êtes au gouvernement et justement, vous savez que les masques, c'est un sujet vraiment très important pour les Français. Ça va représenter un budget. Est-ce que ça peut être une étude ?
Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures, notamment pour les publics les plus fragiles. Un stock de masques sera mis à disposition dans chaque département des préfets pour, en lien avec les collectivités locales, faire en sorte que nous puissions aussi venir en solidarité à celles et ceux qui n'en seraient pas équipés. Ce qui compte aujourd'hui, ça n'est pas de faire des annonces faciles. Surtout, imaginez que les masques qui sont encadrés au prix de l'unité au niveau que l'on connaît
justement,
sont remboursés
Christophe
par
Castaner,
la Sécurité sociale.
Sur le prix des masques,
les Français
il y a une question
équipés.
Par rapport à ça. Le gouvernement a plafonné le prix de masques chirurgicaux à 95 centimes, le prix maximum pour un seul masque. C'est un prix qui est jugé exorbitant par l'association 60 millions de consommateurs par rapport au prix hors crise. Donc c'est une inflation qui est incompréhensible pour les internautes. Même si le marché est tendu, est-ce que vous trouvez que cela est acceptable, qu'il y ait une telle hausse de prix pour les masques chirurgicaux ?
C'était 10 fois moins le prix, nous dit l'association, avant la crise.
Ah mais vous avez totalement raison et l'association a totalement raison. Mais il faut avoir en tête que quand vous êtes sur un marché tendu, les producteurs essentiellement chinois aujourd'hui ont augmenté leur prix pour répondre à des besoins très exponentiels de consommation. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que le prix des masques qui est acheté, qui est importé en avion dans notre pays, revient quelquefois à des prix un peu supérieurs même à celui que l'association que vous évoquez trouve exorbitant. C'est cela aussi la réalité. C'est pour ça que nous montons en puissance dans la production nationale. Je vous l'ai dit, 5 fois plus de masques seront produits par les entreprises françaises au 11 mai par rapport au début de la crise, pour ne pas être dépendant de production
des pays étrangers. Et justement, Christophe Castaner, pour continuer sur le port des masques...
L'augmentation en masse de masques grand public permettra de baisser les prix.
Pour continuer sur la question des masques, vous avez annoncé justement dans cette émission que si un Français est contrôlé dans les transports en commun sans masque, il devra quitter la rame, par exemple, pour ne pas contaminer, prendre le risque de contaminer les autres voyageurs. Mais par exemple, Johan, lui, il vous répond que ce n'est pas logique. Votre réponse, il ne la comprend pas. Pour lui, il vaut mieux justement distribuer un masque à cette personne pour qu'elle puisse finir son trajet. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Mais c'est d'ailleurs ce qui a été prévu, c'est ce qui a été prévu par la RATP, qui a prévu au départ de pouvoir équiper, et nous allons évidemment accompagner la RATP pour équiper le premier don de masques sur ce sujet. Mais attention, moi je ne pense pas que
merci,
la responsabilité
Christophe
des forces de sécurité intérieure, ce soit de faire en sorte que ceux qui n'ont pas de masque, on puisse en distribuer librement. Chacun doit être responsable.
Merci beaucoup. Merci Christophe Castaner, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine. Bon courage, à la semaine prochaine.